Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à toutes et à tous. La Grèce et la Turquie à nouveau au centre des débats sur la question migratoire en Europe. En juillet, le Monde apprenait avec horreur le décès d'une petite fille de 5 ans, abandonnée avec un groupe de migrants sur un îlot du fleuve Evros qui marque la frontière entre les deux pays. Athanée Ankara se renvoie la responsabilité de ce drame, tout comme il repousse les réfugiés de part et d'autre des postes de contrôle, en violation flagrante des garanties internationales. Une ONG a d'ailleurs porté ses cas devant la justice. À Athènes, Joël Bronner a pu s'entretenir par téléphone avec plusieurs de ses victimes.
Ce jeune Syrien, nous l'appellerons Hussein, a 22 ans. Son pays est agité par une guerre civile vieille d'une décennie. En Turquie, pays frontalier où il vient de passer 3 ans, les nombreux réfugiés sont de moins en moins tolérés. Une fois déjà, il a été expulsé vers sa Syrie natale. Sans cesse, il essaye donc de fuir. 8 fois pourtant, il se fait refouler par la Grèce. Au printemps, Hussein embarque alors en groupe sur un bateau gonflable et échoue sur un îlot du fleuve Evros entre Turquie et Grèce.
J'ai eu très froid, je suis resté sur cet îlot pendant 12 jours. Il n'y avait pas de nourriture, pas d'eau. Nous devions boire l'eau du fleuve. Je peux vous dire qu'en ce qui me concerne, pendant 4 jours, je n'ai rien mangé du tout. Le peu que nous avions, nous le donnions aux enfants qui étaient là.
Coincé sur cet îlot, bloqué entre deux pays étrangers, le jeune homme, plein d'incertitude, se sent un temps totalement pris en étau.
Je ne suis pas allé directement en Grèce à cause de mes mauvaises expériences avec les commandos qui nous ont refoulés. C'est pour ça que j'étais hésitant à y retourner et que je suis resté sur cet îlot. Et je ne pouvais pas non plus revenir en arrière à Istanbul parce que j'avais déjà été déporté une fois de Turquie en Syrie.
Malgré les craintes et les réticences, le groupe épuisé finit par aller de l'avant.
Au final, on s'est dit qu'on allait prendre le risque de traverser. Soit nous tentions de rallier la Grèce, soit nous serions renvoyés en Syrie. Grâce à Dieu, nous avons réussi à traverser et nous avons atteint la rive grecque.
En Grèce, les refoulements se sont fortement multipliés depuis 2020. Ils consistent à renvoyer, sur terre ou sur mer, les nouveaux arrivants vers la Turquie, sans examen de leur demande d'asile, voire sans la mener à terme. Et ce, en violation des traités internationaux, comme la Convention de Genève. Cet autre Syrien, âgé de 24 ans, qui se présente comme Mohamed, a connu 2 fois cette expérience du refoulement vers la Turquie, avant de se retrouver lui aussi coincé au printemps, sur l'un de ces îlots à la juridiction floue.
Je suis resté 12 jours sur un îlot, mais tout ceci a pris une vingtaine de jours en tout. On faisait des allers-retours de la Turquie vers la Grèce et de la Grèce vers la Turquie. À notre arrivée en Grèce, depuis la Turquie, des mercenaires côté grec nous ont renvoyés du côté turc, puis ce sont les Turcs qui nous ont arrêtés. Quand nous sommes sortis de prison, les Turcs nous ont alors amenés sur cet îlot.
Le cas de Mohamed, dont le groupe s'est alors retrouvé bloqué durant des jours au milieu du fleuve Evros, fait partie des 19 dossiers depuis le mois de mars que l'ONG Conseil grec pour les réfugiés a porté devant la Cour européenne des droits de l'homme. Objectif, que les autorités grecques leur viennent en aide et leur ouvrent l'accès à la procédure d'asile. Une démarche également effectuée cet été pour un groupe d'une quarantaine de Syriens qui a passé près d'un mois à l'abandon au milieu du fleuve. Le décès sur cet îlot d'une fillette de 5 ans et l'attention de médias internationaux a contribué à mettre cette affaire en lumière. Clotilde Prunzou, avocate du Conseil grec pour les réfugiés.
Dans cette affaire, il y a des responsabilités à la fois du côté turc et du côté grec. Selon les témoignages que nous avons recueillis, la Turquie a mis une forte pression sur ce groupe de personnes pour qu'ils rejoignent un îlot. Mais au préalable, ces mêmes personnes avaient été violemment attaquées puis refoulées à leur arrivée en Grèce.
Et l'avocate de rappeler que les îlots ne sont qu'une partie d'un problème de gestion des frontières bien plus large.
Ce qui est arrivé à ce groupe de demandeurs d'asile ne se limite donc pas à leur expérience au niveau du fleuve Evros. Il y a les refoulements aussi. Ces gens ont été arrêtés puis détenus sur le territoire grec dans un centre de détention officieux. Ils ont subi beaucoup de violences, il y a eu des comportements criminels à leur encontre, puis ils ont été refoulés, renvoyés vers la Turquie depuis la Grèce.
Début septembre, le ministre grec des Migrations a affirmé dans un journal local que l'entrée de 150 000 migrants en situation irrégulière avait été évitée depuis le début de l'année. Comprenez entre les lignes, renvoyés vers la Turquie. De la Turquie à la Grèce, puis de la Grèce à la Turquie, sur les îlots de l'Evros et ailleurs, c'est un jeu migratoire macabre qui continue à se jouer politiquement à la frontière de l'Europe.
Et la Turquie voisine est le pays qui accueille de loin le plus de réfugiés au monde, 3 700 000 Syriens, auxquels il faut ajouter des centaines de milliers d'Irakiens, d'Afghans et d'autres nationalités. Mais leur présence est de moins en moins bien acceptée, surtout en période de crise économique. Les tensions ressurgissent au moindre fait divers en période électorale, ou dès qu'un dirigeant européen suggère d'aider la Turquie à accueillir plus de réfugiés. Bonjour Anan Dlawar.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
On le sait, la Turquie et l'Union européenne ont conclu en 2016 un pacte migratoire qui engage la Turquie à garder les Syriens chez elle en échange du soutien financier de l'UE, soit 6 milliards d'euros. Mais la Turquie n'a jamais été satisfaite de l'accord et reproche aux Européens de s'être débarrassés du fardeau migratoire.
Oui, c'est l'éternel refrain du président Erdogan et d'à peu près tous les partis politiques en Turquie. Mais la nouveauté ces dernières années, c'est que l'économie turque va de mal en pis. L'inflation explose à plus de 80% sur un an, ce qui provoque du mécontentement dans la population, encourage le discours selon lequel la Turquie n'a pas les moyens d'abriter tous ses réfugiés et donne du grain à moudre aux opposants de Tayyip Erdogan. Alors, facteur supplémentaire, la Turquie entrera bientôt en période électorale. Les élections doivent avoir lieu au plus tard en juin prochain. Et l'immigration sera l'un des thèmes majeurs de la campagne. C'est actuellement le deuxième sujet de préoccupation des Turcs derrière l'économie.
Et la nouvelle première ministre du Royaume-Uni, Liz Truss, fait partie des dirigeants européens perçus avec le plus de suspicion dans ce dossier à Ankara.
Oui, en raison d'un article paru au début de l'été dans le quotidien britannique The Times. À l'époque, Liz Truss était encore ministre des Affaires étrangères, en campagne pour son poste actuel, et Christopher Chope, un député de son parti, le Parti conservateur, avait affirmé que Liz Truss souhaitait ouvrir des négociations avec certains pays susceptibles de récupérer des réfugiés arrivés au Royaume-Uni sur le modèle d'un arrangement conclu avec le Rwanda. Et la Turquie faisait partie de ces quelques pays. Alors, le ministère turc des Affaires étrangères a répondu sèchement à ces allégations. Il est hors de question pour notre nation de supporter une charge supplémentaire. La Turquie ne deviendra pas un camp de réfugiés ou un garde-frontière pour un autre pays et n'endossera aucune des responsabilités internationales d'un autre pays. C'est un extrait de la réponse publiée à l'époque. L'affaire est revenue dans la presse turque lorsque Liz Truss est arrivée au pouvoir début septembre.
En août 2021, Anne, au moment de la prise de contrôle de l'Afghanistan par les talibans, une polémique similaire avait impliqué la Turquie et le Royaume-Uni.
Tout à fait, quand des médias britanniques avaient affirmé que le Royaume-Uni cherchait à établir des hubs dans des pays comme le Pakistan et la Turquie pour accueillir dans un premier temps les demandeurs d'asile afghans. À la même période, d'autres dirigeants occidentaux avaient suggéré que les Afghans souhaitant demander l'asile en Europe ou aux États-Unis pouvaient le faire depuis le territoire turc. Et là encore, la Turquie avait été claire. Son président Erdogan avait martelé que son pays n'avait, je cite, ni le devoir, ni la responsabilité, ni l'obligation d'être l'entrepôt de réfugiés de l'Europe.
Le sujet est effectivement explosif pour le président turc qui a longtemps soutenu une politique de portes ouvertes à l'écart des Syriens et le paye aujourd'hui dans les enquêtes d'opinion.
Oui, d'autant que l'opposition promet, elle, de les renvoyer tous en Syrie si elle remporte les élections. Sous pression, donc, Recep Tayyip Erdogan a finalement annoncé cet été préparer le retour d'environ 1 million d'entre eux sur la base du volontariat. En pratique, mais aussi au regard du droit international, une telle promesse semble difficile à tenir. Mais un facteur supplémentaire inquiète les Syriens de Turquie. Ces dernières semaines, le gouvernement turc a infléchi sa position à l'égard du régime de Bachar el-Assad, plaidant désormais pour le dialogue, alors que la Turquie a autrefois cherché à renverser ce régime en armant ses opposants. Un peu comme Ankara et Bruxelles s'étaient entendus en 2016 derrière le dos des Syriens, du moins ainsi que beaucoup avaient perçu alors le pacte migratoire, et bien de plus en plus de réfugiés redoutent donc qu'Ankara et Damas s'entendent derrière leur dos pour les contraindre à rentrer en Syrie.
Merci Anan Dlawar, à très bientôt. Et qu'en est-il des réfugiés ukrainiens? Ils sont plus de 5,5 millions à avoir trouvé asile, surtout dans les pays limitrophes et tout d'abord en Pologne, mais ailleurs. La solidarité est-elle toujours bien là? En Suisse, on peut se poser la question alors qu'à Genève, près de 300 réfugiés dorment dans une immense halle d'exposition, le Palexpo, faute d'avoir trouvé une famille d'accueil. Promiscuité, bruit de l'aéroport voisin, le lieu est loin d'être idéal quand on a fui la guerre. C'est le reportage de Jérémy Lanche.
Là, vous avez le réfectoire, hein. Donc la nourriture est amenée 3 fois par jour. Et puis en face, bien, on a une partie des sanitaires avec les douches.
En jugé comme ça, la halle numéro 7 de Palexpo ressemble à n'importe quel centre d'hébergement. À quelques détails près, à Palexpo, la hauteur de plafond est de 20 mètres et l'espace gigantesque, plus de 15 000 mètres carrés, c'est l'équivalent de 2 terrains de football. On continue la visite avec Thierry Schreyer, c'est le responsable du site pour l'Hospice Général, le service social de Genève.
Ce sont des chambres assez simples qui sont faites d'une sorte de surface métallique recouverte par des toiles. Il y a 6 à 8 personnes par chambre maximum. Là, elle est faite pour environ 700 personnes. On en avait ce matin 298.
L'ensemble rappelle forcément un camp de réfugiés, même si la comparaison s'arrête là. Valentina est arrivée il y a un mois de Mykolaïv.
Je me sens très bien ici, vraiment. Il y a tout ce qu'il faut. Les douches, les buanderies, le wifi. Et les repas sont très très bons.
Quand on arrive à Palexpo, on se demande quand même si le bruit des avions juste à côté pourrait rappeler de mauvais souvenirs aux réfugiés. C'était une crainte au moment d'installer le centre d'hébergement près de l'aéroport. Mais Bogdan assure que ce n'est pas ça qui va l'empêcher de dormir.
Quand on a connu comme moi le bruit des bombardements en Ukraine, on arrive à faire la différence. Là, ça n'a vraiment rien à voir. Pour moi, en tout cas, ce n'est vraiment pas un problème.
Mais c'est inévitable, on n'accueille pas 300 personnes dans un hangar pendant des mois sans qu'il n'y ait quelques tensions. Mais ça, la plupart des hébergés ne veulent pas en parler. Tous sont conscients de la chance qu'ils ont d'avoir un toit au-dessus de leur tête et de vivre loin de la zone de front. Alors quand Anna évoque ce qui ne va pas, elle le fait avec beaucoup de pincettes.
Les gens qui travaillent ici sont vraiment géniaux. Ils font de leur mieux pour nous accueillir et ils le font plutôt bien. Mais d'un autre côté, c'est aussi déprimant parce qu'on n'a aucune intimité. J'ai eu un entretien d'embauche où on m'a dit que je correspondais au poste. Mais à un moment, on m'a demandé où j'habitais. Et quand j'ai dit que j'étais à Palexpo, l'entretien s'est brusquement terminé. Ils craignaient que je ne puisse pas dormir et que j'arrive fatiguée au bureau ou que je tombe malade.
Toutes ces complications, Ariane Merkelbach ne les nie pas, mais la directrice du département migrants au sein de l'Hospice Général estime que même si le centre d'hébergement n'est pas parfait, il a le mérite d'exister.
Oui, ça peut être choquant d'arriver ici dans cet environnement-là, mais comparé à d'autres environnements qu'à tout choisir, dans le pire des mots, on préfère encore celui de Palexpo.
Le problème, en réalité, ce n'est pas tellement que Genève accueille des réfugiés dans un centre d'exposition. Le problème, c'est qu'ils y restent plusieurs mois. Chaque jour, entre 5 et 10 Ukrainiens frappent à la porte de la halle. Beaucoup moins en repartent en étant relogés. Les familles d'accueil manquent cruellement.
Alors c'est clair qu'au début du mois de mars, il y a vraiment des milliers de personnes sur la Suisse entière qui se sont annoncées pour héberger des personnes chez elles. C'est clair qu'avec le temps, la motivation, elle décroît peut-être un peu. Et là, on vient de relancer un appel en espérant que de nouvelles familles d'accueil s'annoncent.
Pour le moment, les autorités se disent confiantes quant à la capacité de la Suisse d'accueillir de nouveaux réfugiés ukrainiens. Berne estime qu'il devrait en arriver entre 3 et 5 000 chaque mois d'ici à décembre. S'ils étaient plus nombreux, les centres d'hébergement comme Palexpo seraient très rapidement saturés. Palexpo doit normalement fermer fin février, mais des discussions sont en cours pour qu'il reste opérationnel plus longtemps.
Les funérailles du siècle pour la reine Elisabeth II, impossible de passer sous silence cette journée de cérémonie qui mobilise à la fois l'ensemble des chefs d'État de la planète et de la nation britannique, avec cette question en arrière-plan, pourquoi ? Pourquoi la monarchie britannique suscite-t-elle autant de passion alors que bien d'autres monarchies européennes, belges, danoises ou espagnoles n'ont pas un centième de son aura ? C'est l'œil européen de Franceline Beretti cette semaine.
Il y a bien sûr la longévité d'Elisabeth. 70 ans de règne sur le Commonwealth, déjà aux responsabilités pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous connaissez son CV, il a de quoi impressionner.
To you, She was your queen. To us, she was the queen.
La formule d'Emmanuel Macron sonne juste. Pour les Français et pour beaucoup d'Européens, Élisabeth II, c'était la reine, l'unique, depuis Marie-Antoinette, on va dire. Pourtant, il y en a d'autres en Europe, des monarques expérimentés. 50 ans de pouvoir pour Charles XVI Gustave, en Suède, ou pour Margrethe II, à Copenhague. Il faut la voir, Margrethe, quand elle devient la première reine du Danemark en 1972. Dans ses habits de deuil, son père vient de mourir la veille, elle est bouleversée mais digne et parvient à prononcer son premier discours dans un vent que l'on sent glacial. À 82 ans, elle n'a toujours pas abdiqué. Si elle s'inspire d'Élisabeth pour passer le sceptre, son héritier va devoir ronger son frein. Mais ni le Danemark ni la Suède n'ont la puissance politique et le prestige du Royaume-Uni. Leur souverain, on ne les reconnaîtrait pas sur une boîte de biscuits. Les autres monarques, eux, sont plus jeunes. Juan Carlos en Espagne est parti au profit de son fils Felipe VI en 2014, puis parti tout court.
Juan Carlos a quitté l'Espagne alors qu'il est sous le coup d'une enquête dans un vaste scandale de corruption. Et malgré les investigations de la presse espagnole qui a évoqué le Portugal, la République dominicaine, les Émirats arabes unis ou encore la Nouvelle-Zélande, le mystère demeure sur le pays d'accueil de celui que ses détracteurs surnomment le fugitif.
En fait, il est exilé à Abu Dhabi. En Belgique, Albert II a lui aussi laissé la place à Philippe en juillet 2014. Au passage, il a rendu un bel hommage à son épouse, la reine Paola.
Je voudrais simplement lui dire merci et un gros kiss.
Paola le mérite d'autant plus son gros kiss qu'elle a lâché l'Italie pour la Belgique, supporté la révélation des amours extra-conjugaux de son époux, l'existence d'une fille illégitime et les frasques de son Benjamin, le prince Laurent. On est loin de l'image de la famille parfaite que voulait donner Albert avant son accession au trône lors d'un reportage à la résidence royale.
Sur la terrasse du belvédère, la princesse Marie-Astrid lit un livre en compagnie du prince Albert, son père, avant que la famille au grand complet descende les marches pour rejoindre nos confrères de la presse en images.
Et pendant ce temps, Paola s'occupe de ses rosiers pendant que son fils aîné, l'actuel roi Philippe, joue gentiment avec le chien.
Mais n'est-il pas frappant que ce week-end familial sans histoire et sans prétention ressemble à maints égards à ce que vivent beaucoup de foyers belges?
Non, le foyer belge, son jardin mesure rarement 186 hectares. C'est à peu près la taille de la principauté de Monaco. Monaco, il y aurait des choses à raconter là encore. À regarder les autres monarchies, on comprend pourquoi Élisabeth II fait presque l'unanimité. Pourtant, elle non plus n'avait pas une famille toujours à la hauteur de sa fonction. Pensez au prince Andrew, son deuxième fils, un ami du prédateur sexuel américain Jeffrey Epstein, lui aussi accusé d'agression sexuelle sur mineurs. En plus léger, la sécession d'Harry et de Meghan et leur interview à Oprah Winfrey n'honorent pas non plus la famille.
It's a girl.
You're gonna have a daughter.
C'est gênant. La reine semblait loin de tout ça. Avec ses chevaux et ses chiens saucisses, son foulard noué autour de la tête comme une banale petite vieille, elle semblait contrebalancer le poids du monde en gardant les pieds bien enfoncés dans la terre britannique et en se gardant de tout commentaire.
Accent d'Europe était réalisé par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr et sur les réseaux sociaux. À demain.